VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 19 mars 2021. Eric Manirakidza à la présentation, tout d'abord les titres. En Tanzanie, l'ancienne vice-présidente Samia Suluhu Hassan a prêté serment pour succéder au défunt président John Magufuli. Au Congo, la campagne de Denis Sassou Nguesso promet une victoire au coup KO dès le premier tour dimanche. En Côte d'Ivoire, le défunt premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé ce vendredi à Séguéla, son fief d'origine. Ici, aux États-Unis, diplomates américains et chinois se retrouvent à Anchorage, en Alaska, pour des discussions tendues sur de nombreux désaccords. Le monde aujourd'hui, c'est aussi l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. L'ancienne vice-présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a prêté serment ce vendredi pour succéder au président John Magufuli, dont le décès a été annoncé mercredi soir. Elle devient la première femme à diriger le pays. Claire Morin-Gibour.
À Dar es Salaam, Samia Suluhu Hassan a prêté serment en jurant sur le Coran dans sa main droite. Moi, Samia Suluhu Hassan, promets d'être honnête et d'obéir et de protéger la constitution tanzanienne. J'exercerai honnêtement mes fonctions de présidente de la République unie de Tanzanie et assurerai la justice à toutes les personnes conformément aux lois, coutumes et traditions de la Tanzanie sans crainte, ni faveur, ni haine, avec l'aide de Dieu. Elle a été plusieurs fois ministre, notamment au sein du gouvernement de l'ancien président Jakaya Kikwete, présent à la cérémonie. Originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, dont les relations avec la Tanzanie continentale sont souvent houleuses, cette musulmane de 61 ans occupera la présidence pour la période restante du mandat de 5 ans, soit jusqu'en 2025, selon la constitution tanzanienne.
Dans le nord-est de la RDC, au moins 200 personnes ont été tuées cette année et 40 000 autres déplacées par le groupe armé ADF. C'est ce que révèle ce vendredi l'ONU, inquiète face à l'augmentation alarmante des attaques dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, ainsi que dans des villages voisins de la province d'Ituri, a déclaré un porte-parole du HCR, Babar Baloche. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 cumulés au pouvoir, vise une réélection dès le premier tour dimanche. Des membres de la société civile émettent déjà des réserves sur la transparence du scrutin. N'est-ce pas, Nathalie Barche?
Un coup KO proclament les affiches de campagne de Denis Sassou Nguesso pour marquer sa volonté d'être réélu dès le premier tour, comme en 2016. Les deux principaux rivaux du président sortant, Guy Brice Parfait Kolelas et Mathias Don, sont deux anciens ministres passés à l'opposition. Arrivé deuxième il y a 5 ans, M. Kolelas s'est engagé à libérer les deux candidats de 2016, condamnés à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, le général Jean-Marie Mokoko et André Okombi Salissa. La conférence épiscopale qui s'est vue refuser l'accréditation de ses observateurs a émis de sérieuses réserves sur la transparence du scrutin. Elle veut tester une application qui permettrait de télécharger les procès-verbaux de tous les bureaux de vote pour avoir une idée en temps réel de la vérité des urnes. Mais selon elle, une coupure d'Internet est à redouter dès dimanche comme en 2016.
Au Niger, une marche qui devait être suivie d'un meeting de l'opposition demain samedi à Niamey a été interdite par les autorités. Un décret de la ville de Niamey stipule que la marche est interdite pour risque de troubles à l'ordre public et pour des raisons liées à la pandémie du Covid-19. La coalition CAP 2021, proche du candidat Mahaman Ousmane et ses alliés, avaient appelé les Nigériens à se lever pour contester la victoire de Mohamed Bazoum à la présidentielle.
Dans l'ouest du Niger, l'armée a déployé des renforts dans la zone de Banibangou, théâtre lundi d'un massacre qui a fait 66 morts. C'est ce qu'annonce ce vendredi le ministre de l'Intérieur. D'autres mesures sécuritaires sont prévues et seront mises en place de façon progressive, a assuré le ministre, évoquant des patrouilles de village en village et des escortes vers les marchés pour faciliter l'approvisionnement. Le nombre de soldats envoyés en renfort n'a pas été révélé. En Côte d'Ivoire, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars à 56 ans, a été inhumé dans l'intimité familiale vendredi dans sa ville de Séguéla, dans le nord du pays. Le point avec Michel Joseph.
De nombreuses personnalités, dont le président Alassane Ouattara, toutes de blanc vêtues, ont pris part à la prière mortuaire dans la mosquée de Séguéla, en présence de 400 imams. Mercredi, l'hommage national à Ahmed Bakayoko s'est déroulé dans l'enceinte du palais présidentiel à Abidjan. Les opposants ont aussi tenu à saluer sa mémoire. L'ex-président Laurent Gbagbo a différé son retour au pays, qui était prévu à la mi-mars. Ahmed Bakayoko a été évacué en France le 18 février avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne au moment des législatives dans son pays. Malgré son absence, il a été très largement réélu député dans son fief de Séguéla. Il avait succédé en juillet 2020 à Amadou Gon Koulibaly, décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation en France pour des problèmes cardiaques.
Le dernier président blanc sud-africain, Frédéric de Klerk, qui a fêté ses 85 ans jeudi, souffre d'un cancer et commencera des traitements dès la semaine prochaine, a annoncé sa fondation. Pur produit du régime raciste de l'apartheid, M. de Klerk en avait pourtant précipité la chute en libérant Nelson Mandela, avec qui il a partagé le prix Nobel de la paix en 1993.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden s'envole vendredi pour Atlanta après les fusillades dans trois salons de massage pour dénoncer la hausse des incidents violents contre la communauté asiatique. Joe Biden, qui sera accompagné de la vice-présidente Kamala Harris, rencontrera des représentants de la communauté des Américains d'origine asiatique, puis prononcera un discours depuis l'université Emory. Cette visite devait initialement être consacrée à la pandémie et au gigantesque plan de soutien de l'économie adopté la semaine dernière par le Congrès. Nous y reviendrons en partie magazine. Les États-Unis et la Chine se retrouvent aujourd'hui en Alaska après une première réunion hier lors de laquelle les deux parties ont vivement critiqué leurs politiques respectives. La ville d'Anchorage a été choisie comme terrain le plus neutre pour cette réunion de deux jours. Jacques Aristide fait le point.
Washington et Pékin ont étalé leur désaccord lors de ce premier face-à-face de l'ère Biden. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait part de profondes inquiétudes au sujet du Xinjiang, où Washington accuse Pékin de génocide contre les musulmans ouïghours, mais aussi de Hong Kong, Taïwan, des cyberattaques et de la coercition économique contre les alliés américains. Chacun de ces actes menace l'ordre, fondé sur des règles qui garantissent la stabilité mondiale, ajoute le patron de la diplomatie américaine. La réplique chinoise a été tout aussi cinglante. La Chine est fermement opposée aux ingérences américaines dans ses affaires intérieures et nous prendrons des mesures fermes en représailles, a prévenu le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Yang Jiechi. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a critiqué les dernières sanctions américaines annoncées à la veille des pourparlers contre la reprise en mai de Hong Kong par Pékin. Ce n'est pas ainsi qu'on accueille ses invités, a-t-il protesté.
Le Sénat américain a confirmé jeudi la nomination du diplomate William Burns comme directeur de la CIA, l'agence centrale américaine du renseignement. William Burns a été confirmé à l'unanimité lors d'un vote oral. Âgé de 64 ans, il a servi comme ambassadeur en Russie et a été numéro 2 du département d'État. Il a servi à la fois pour des administrations démocrates et républicaines et devient le premier diplomate de carrière à prendre la tête de la CIA. Les États-Unis ont été rejoints jeudi par la Russie, la Chine et le Pakistan dans leur appel à un cessez-le-feu immédiat en Afghanistan alors qu'une conférence est organisée à Moscou. Cette conférence intervient à 6 semaines de la date butoir pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, où elles sont présentes depuis près de 20 ans. Le rythme de vaccination a accéléré de manière spectaculaire ici aux États-Unis au cours des dernières semaines, avec actuellement 2,4 millions de doses administrées en moyenne par jour. Le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis franchiraient aujourd'hui, avec plus d'un mois d'avance, l'objectif de 100 millions d'injections durant les 100 premiers jours de son mandat. Plusieurs pays européens reprennent les vaccinations avec AstraZeneca. L'Allemagne et la France, tout comme l'Italie ou encore la Bulgarie et la Slovénie, ont repris ce vendredi la vaccination avec l'AstraZeneca. Une quinzaine d'autres pays avaient suspendu par précaution l'utilisation de ce vaccin contre le Covid-19 après le signalement d'effets secondaires. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minuteco signée Michel Claire-Joseph.
Le géant italien des hydrocarbures, Eni, a proposé au parquet de Milan de payer une amende de 11,8 millions d'euros pour mettre fin à une enquête sur des soupçons de corruption au Congo-Brazzaville. L'enquête, entamée en 2017, porte sur des renouvellements de permis pétroliers sollicités en 2015 par Eni. Le groupe est soupçonné d'avoir accepté de vendre en contrepartie des parts de sa licence à une société écran détenue par des fonctionnaires locaux. La fréquence, l'intensité et la complexité croissante des catastrophes fait payer un lourd tribut à l'agriculture dans tous ses secteurs, souligne la FAO. Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, l'agriculture a abordé un quart des conséquences des catastrophes entre 2008 et 2018. Plus de 2 milliards de personnes dépendent du secteur agricole pour leur subsistance. Le géant américain des technologies, Google, va investir 7 milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données aux États-Unis et y créer 10 000 emplois cette année, a annoncé son directeur général Sundar Pichai. Des milliers d'emplois devraient être créés à Atlanta, Washington, la capitale fédérale, à Chicago et à New York. Alphabet, la maison mère de Google, a dégagé en 2020 un chiffre d'affaires de près de 57 milliards de dollars et un bénéfice net de plus de 15 milliards de dollars, en hausse de 50% sur un an.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Claire Morin-Gibourg. Bonsoir Claire.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs. On commence avec le programme du tableau final de Ligue des Champions après le tirage au sort réalisé ce vendredi au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Quart de finale, la manche aller débutera le mardi 6 avril. Manchester City affrontera Dortmund. Le Real de Madrid sera face à Liverpool. Au programme du mercredi 7 avril, FC Porto, Chelsea et Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Rendez-vous mardi 13 avril pour la manche retour avec le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich et Chelsea contre le FC Porto. Enfin, à l'affiche le mercredi 14 avril, Liverpool, Real Madrid, Dortmund, Manchester City. Pour les demi-finales, l'aller sera le 27-28 avril et le retour 4 et 5 mai. Bayern de Munich ou Paris Saint-Germain contre Manchester City ou Dortmund. Puis le Real de Madrid ou Liverpool contre Porto ou Chelsea. La finale est prévue le 29 mai à Istanbul. En Afrique à présent, la Fédération sénégalaise de football a demandé à son homologue française d'intervenir pour que ses joueurs puissent participer au prochain match éliminatoire de la CAN. Elle qualifie de discriminatoire la décision des clubs français de ne pas libérer leurs internationaux amenés à évoluer hors de l'Union européenne en raison de la pandémie. Pour affronter le Congo le 26 mars à Brazzaville et l'Iswatini le 30 mars à Thiès au Sénégal, les Lions pourraient être privés de 12 joueurs évoluant en France sur les 26 convoqués. Il s'agit notamment des Parisiens Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo et du Rémois Boulaye Dia, selon un courrier adressé jeudi par la Fédération sénégalaise de football à la Fédération française. Cyclisme, le champion du monde, Julian Alaphilippe, le champion des Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel et le vainqueur sortant, le Belge Wout Van Aert, abordent avec le rang des favoris les 299 km de la plus longue course de la saison. Voilà, c'est tout pour les sports.
Merci Claire pour les sports. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Eric Manirakiza, toujours en votre compagnie, à présent, des dossiers du jour. L'ancienne vice-présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, est devenue la première femme à diriger le pays, prenant la succession du défunt président John Magufuli. Âgée de 61 ans et originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, elle doit rester au pouvoir jusqu'à la fin du mandat de M. Magufuli en 2025. Pour savoir quels défis attendent la nouvelle présidente tanzanienne, Claire Morin-Gibourg a joint à Kigali, au Rwanda, Emmanuel Nkengurutse, ancien sénateur burundais.
Dans les défis qu'il attend en Tanzanie, c'est de revenir, faire revenir la société tanzanienne à une vie démocratique normale, parce que il a trouvé une société qui est un peu malmenée par une certaine dérive autoritaire. On le voit de par de nombreux emprisonnements des opposants, des membres de la société civile, y compris des avocats. J'en souviens, je connais des exemples. Et là, on espère que la nouvelle présidence pourra un peu positiver les choses et faire en sorte que la vie démocratique redevienne normale et que tous les acteurs politiques puissent jouer leur rôle. La deuxième attente, c'est faire en sorte que la communauté est-africaine, l'EAC, puisse, n'est-ce pas, travailler en symbiose, parce que il me semble que certains programmes d'intégration régionale n'avaient pas été, n'est-ce pas, respectés correctement. On connaît les problèmes qui se posent au Soudan du Sud, donc là, on peut comprendre qu'il y a eu des retards. Mais il y a certains programmes d'intégration régionale qui ne sont pas correctement bien appliqués.
Quelle est la situation et que va-t-il se passer pour les réfugiés burundais?
On souhaite que la nouvelle présidence respecte les droits des réfugiés, respecte le droit international. Les droits des réfugiés sont bafoués, surtout les réfugiés burundais qui subissent une discrimination. D'autres réfugiés ne sont pas discriminés, ne sont pas malmenés. Il y a des réfugiés, vous pouvez consulter à ce sujet le rapport, le dernier rapport de Human Rights Watch, qui indique vraiment qu'il y a des gens qui ont été chassés, qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés et même tués, et d'autres qui ont été remis au service secret burundais et qui sont maintenant emprisonnés au Burundi. Donc là, les droits des réfugiés en Tanzanie, ils n'ont pas le droit de faire les petites affaires, ils n'ont pas le droit de circuler. Même à l'intérieur du camp, les marchés ont été fermés complètement. Il y a les naissances, on ne les inscrit plus. Donc, on leur refuse le droit à la personnalité juridique. Donc là, c'est un problème très sérieux. Les réfugiés burundais subissent la pire des situations qui puissent exister.
Emmanuel Nkengurutse, ancien sénateur du Burundi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden rencontre aujourd'hui la communauté américano-asiatique à Atlanta, en Géorgie. C'est à la suite d'une fusillade qui a tué 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique. Les attaques contre les Américains d'origine asiatique se sont multipliées au cours de l'année passée. Certains les attribuent à l'administration Trump, qui avait qualifié de grippe chinoise la pandémie de coronavirus. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point Le récit est de Lionel Runanira Gahima.
Il y a eu augmentation de la présence policière dans les quartiers chinois à travers les États-Unis. Après la fusillade mardi, dans 3 salons de massage à Atlanta, en Géorgie. 8 personnes ont été tuées, dont 6 femmes d'origine asiatique. Les autorités mènent l'enquête toujours pour savoir si le suspect Robert Aaron Long, qui a été inculpé de 8 chefs d'accusation de meurtre, était aussi motivé par des préjugés raciaux. Cette fusillade a mis l'accent sur les crimes de haine. Chuck Schumer, leader de la majorité démocrate au Sénat.
Il ne fait aucun doute que les abus, les préjugés, la violence contre les Américains d'origine asiatique sont en augmentation. Et c'est tellement anti-américain et si méprisable que nous devons tous en parler.
Cette attaque et d'autres incidents ont déclenché la peur et l'indignation au sein de la communauté américano-asiatique. American Sum, un habitant de New York, blâme l'administration précédente.
Depuis que Trump a commencé à l'appeler virus chinois et à blâmer la Chine, je pense que cela a mis une certaine mentalité dans la tête des gens.
La rhétorique de l'ancien président Donald Trump,
ce n'est pas du tout raciste, non, pas du tout, cela vient de Chine,
a contribué à la discrimination selon l'attaché de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki.
L'énorme mégaphone que vous avez depuis la Maison-Blanche est quelque chose qui se fait entendre dans tout le pays. Alors il est important de réfléchir aux mots que vous utilisez et à la manière dont vous exprimez votre opposition à toute sorte de discrimination.
Avec le drapeau en berne au-dessus de la Maison-Blanche pour honorer les victimes, le président Joe Biden se rend à Atlanta pour s'entretenir avec les dirigeants communautaires. Au cours de sa première semaine au pouvoir, il a signé un mémorandum condamnant la xénophobie et a chargé les agences fédérales de renforcer la collecte des données et la prévention des incidents de haine et de veiller à ce que la riposte à la pandémie soit culturellement et racialement équilibrée. Les militants américains d'origine asiatique disent qu'il faut faire plus. Russell Jung est cofondateur de l'association dite Arrêter la haine contre les Américains d'origine asiatique et aussi professeur à l'Université d'État de San Francisco.
Nous appelons vraiment le gouvernement à tous les niveaux à être réactif et sensible à la communauté américano-asiatique en ce moment, des districts scolaires aux autorités judiciaires en passant par les services de santé. Nous avons besoin partout de la réactivité du gouvernement.
Un rapport sur l'extrémisme domestique violent publié cette semaine par la communauté du renseignement américain décrit une menace élevée de la part d'extrémistes à motivation raciale et ethnique, y compris les Américains d'origine asiatique.
Toujours ici aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté hier soir deux projets de loi clés de l'ambitieux programme d'immigration du président Joe Biden. Mais comme le rapporte Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, le débat sur l'immigration est loin d'être terminé. Le récit est signé Jacques Aristide.
Un nombre croissant de demandeurs d'asile et de mineurs non accompagnés arrivent le long de la frontière américano-mexicaine, ce qui a contraint l'administration Biden à assurer que le système d'immigration, souvent jugé dysfonctionnel, soit sous contrôle. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
La grande majorité des gens qui arrivent à la frontière est refoulée. La frontière n'est pas ouverte. Ce sont des scénarios très rares.
Pour les élus républicains, la promesse de campagne de Joe Biden d'offrir un statut juridique à 11 millions d'immigrants sans papier encourage davantage de personnes à venir. Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants.
Pourquoi vous rassemblez toute votre famille et vous effectuez cette traversée? Parce que vous avez entendu la promesse du président Biden.
Le nombre de migrants qui arrivent aux États-Unis augmente d'après le département de la sécurité intérieure. Pour le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, il s'agit d'une crise.
C'est une crise sécuritaire. De nouveaux rapports suggèrent que plusieurs personnes arrêtées à la frontière ces derniers mois correspondent à des non-figurants sur la liste de surveillance terroriste du FBI.
Les nouveaux projets de loi n'incluraient pas les migrants qui traversent la frontière en ce moment, mais ils pourraient modifier la politique d'immigration du pays. Doris Mesner est du Centre des politiques migratoires.
Cela donne du grain à moudre à ceux qui s'opposent aux réformes migratoires et de quoi critiquer l'administration. Donc cela réduit ou complique l'échiquier politique pouvant permettre à l'administration Biden de faire passer ses propositions législatives.
La Chambre des représentants a approuvé un texte visant à faciliter l'obtention d'un titre de séjour des employés agricoles venus de l'étranger et un autre ouvrant la voie de la régularisation pour les Dreamers arrivés lorsqu'ils étaient mineurs aux États-Unis. Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre.
Si jamais nous fermions la porte aux nouveaux Américains, notre leadership dans le monde serait perdu. Cela a toujours été un plaisir pour moi de faire les louanges de nos Dreamers. Ils font notre fierté.
Une stratégie pour convaincre les républicains du Sénat, étroitement contrôlé par les démocrates. Doris Mesner, du Centre des politiques migratoires.
Ce sont des gens qui font appel à tous les bords politiques. Il y a un très fort soutien du public, en particulier pour les Dreamers, mais c'est aussi une tranche limitée.
S'ils deviennent loi, ces projets ouvriront la voie vers la citoyenneté américaine à environ 2 millions de Dreamers.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Nagaïba, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Josèle Morissin. À la présentation, Eric Maniakiza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellent week-end à tous. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Dès son premier jour au pouvoir, le président Joe Biden a pris des mesures pour rejoindre l'accord de Paris et les États-Unis sont officiellement revenus dans cet accord le 19 février. L'accord de Paris est un cadre d'action mondiale sans précédent. Nous le savons parce que nous avons aidé à le concevoir et en faire une réalité. Son objectif est à la fois simple et expansif. Nous aider tous à éviter un réchauffement planétaire catastrophique et renforcer la résilience dans le monde aux impacts du changement climatique que nous voyons déjà, a annoncé le secrétaire d'État Antony Blinken dans une déclaration écrite. L'accord de Paris est entré en vigueur en 2016. Il a été signé par plus de 190 pays et s'est fixé comme objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et de poursuivre les efforts visant à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degrés Celsius. À l'époque, en utilisant l'année 2005 comme base de référence, le président Barack Obama avait présenté un objectif visant à réduire les émissions de carbone des États-Unis de 26 à 28% en 2025. Toutefois, le 1er juin 2017, invoquant la nécessité de protéger l'économie et les travailleurs américains, le président de l'époque, Donald Trump, a annoncé que les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris. L'administration Biden voit les choses différemment. Les économies vertes vont créer un nombre remarquable d'emplois, a déclaré John Kerry, envoyé spécial de la présidence pour le climat, lors de la réunion virtuelle du Forum économique mondial de Davos le 27 janvier. L'UE prévoit 2 millions de nouveaux emplois. Ici aux États-Unis, jusqu'au Covid, nous avons connu 5 années de croissance constante de l'emploi dans le secteur de l'énergie propre, avec plus de 3,3 millions d'emplois créés dans l'ensemble du pays. Au cours de la même période, l'Inde a vu le nombre d'emplois dans le secteur de l'énergie propre quintupler. Et ce n'est qu'un avant-goût du marché sans limite qui nous attend si nous sommes sérieux. Vous avez vu et continuerez de nous voir intégrer le changement climatique dans toutes nos conversations bilatérales et multilatérales les plus importantes à tous les niveaux. Dans ces discussions, nous demandons à d'autres dirigeants comment pouvons-nous faire plus ensemble, a déclaré le secrétaire d'État Blinken. Le changement climatique et la diplomatie scientifique ne peuvent plus jamais être des ajouts dans nos discussions sur la politique étrangère. S'attaquer aux menaces réelles du changement climatique et écouter nos scientifiques est au centre de nos priorités en matière de politique intérieure et étrangère. Cela est essentiel dans nos discussions sur la sécurité nationale, l'immigration, les efforts internationaux en matière de santé, ainsi que dans notre diplomatie économique et nos négociations commerciales, a-t-il déclaré. Nous réengageons le monde sur tous les fronts.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington.